Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des...
Ça, j'y joue beaucoup.
Hashtag.
Déclic, le nouveau magazine des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris.
Bonsoir et bienvenue dans Déclic, le rendez-vous mensuel des amateurs d'expérimentation narrative et des écritures digitales. Le mois dernier, nous vous parlions du cabaret digital organisé par Anita Ougui et David Dufresne à l'occasion des 100 ans du mouvement Dada. Et bien ce mois-ci, nous continuons à regarder dans le rétroviseur du XXe siècle avec nos casques en réalité virtuelle bien sûr, puisque nous allons parler de Philippe K. Dick et de l'hommage protéiforme qu'a décidé de lui rendre Arte, avec un focus particulier sur Californium, un jeu vidéo produit par Darjeeling, qui se déroule dans l'univers de Philippe K. Dick, et sur le projet iPhilippe, un court-métrage en réalité virtuelle produit par Okyo Studio. Pour mener à bien cette périlleuse mission, nous aurons comme chaque mois le crash test de Christine Siméone, le pas de côté de Marine de Saint-Seine et Rémi Réboulet, et enfin le fil d'Oriane, d'Oriane Hurard. La réalité, c'est ce qui refuse de disparaître quand on cesse d'y croire, déclarait Philippe K. Dick. Eh bien, je vous propose de tester cette hypothèse en ce dimanche soir de l'an de grâce 2016, en vous aventurant dans des univers fictifs dont vous pourrez être les héros. Si vous commencez à perdre pied en cours d'émission, ne paniquez pas, devenir fou est parfois une réponse appropriée à la réalité qui nous entoure. Déclic épisode 6, c'est parti dans votre réalité.
Ce que l'avenir vous promet, vous la porte.
Nous recevons donc ce soir deux invités qui ont contribué à plusieurs programmes créés à l'occasion de ce cycle spécial Philippe K. Dick sur Arte. D'une part, nous recevons Thibaut de Cordet, producteur chez Nova Productions. Il a notamment produit le documentaire Les Mondes de Philippe K. Dick, qui est un portrait très documenté de Philippe K. Dick, qui est accessible en vidéo à la demande sur le site d'Arte. Mais Thibaut de Cordet est également le co-scénariste du jeu vidéo Californium, dont certains épisodes sont accessibles gratuitement sur le site d'Arte Créative. Bonsoir Thibaut de Cordet.
Bonsoir Alexandre.
Et en face de lui, dans l'autre coin du ring, nous avons Pierre Zandrovitch, réalisateur chez Okyo Studio et co-scénariste du court-métrage en réalité virtuelle iPhilippe, qui va vous mettre dans la peau d'un androïde un peu particulier. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Alors, avant de nous plonger dans la présentation détaillée de vos projets respectifs, je voudrais qu'on essaye de resituer dans un premier temps, pour nos auditeurs attentifs et assoiffés de connaissances, Philippe K. Dick qui est un petit peu son univers. Donc le mieux, je pense, pour essayer de rentrer dans cet univers qui est extrêmement large, extrêmement riche, eh bien, ce serait de demander à nos invités de présenter rapidement l'œuvre de Philippe K. Dick qui l'a le plus marqué dans son immense bibliographie, puisque Philippe K. Dick est l'auteur de 45 romans et de 121 nouvelles, donc pas facile, j'imagine, de faire un choix. Mais est-ce que l'un de vous deux pourrait commencer par m'expliquer quel est le livre qui l'a le plus marqué, lui a donné envie de contribuer de manière aussi active à un projet autour de Philippe K. Dick?
Moi, je ne veux pas être très original, mais je vais citer Le Maître du Haut Château.
D'accord.
Parce que c'est un roman qui est une bonne introduction à K. Dick, parce que K. Dick, en fait, est assez particulier dans le sens où ses romans sont des pitchs absolument incroyables. Quand vous résumez le roman en trois lignes, c'est...
Alors, si on le résumait en trois lignes, ce serait quoi?
Non, mais là, Le Maître du Haut Château, c'est une uchronie, mm-hmm. où les forces de l'Axe, c'est-à-dire que les Japonais et les Allemands ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Les Japonais occupent l'ouest des États-Unis et les Allemands occupent l'est des États-Unis. Donc, c'est un renversement de l'histoire. Et dans cette Amérique uchronique dominée par les forces de l'Axe, Le Maître du Haut Château est un écrivain qui a écrit un livre qui circule sous le manteau, qui imagine le contraire, c'est-à-dire qui imagine que les Alliés ont gagné la guerre. Mmh. Donc il renverse tout. Donc le pitch est assez dynamique, c'est vivre sous l'occupation nazie et japonaise, sauf que, justement sur cette base-là, qui est assez cadrée, puisque une uchronie sur les Allemands ont gagné la guerre, est presque un marronnier de l'uchronie, plein comme ça, qui permettent justement de développer en général le héros américain, et d'ailleurs c'est comme ça qu'Amazon l'a adapté, en série, qui permet de révéler des héros et des histoires d'amour. Voilà, on va lutter contre l'occupant. Mmh. Sauf que, et c'est là où K. Dick lui s'empare de cette uchronie assez cliché, pour y mettre du K. Dick, c'est-à-dire que finalement, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que la vie sous l'occupation des Japonais et des Allemands aux États-Unis, ça ne change pas grand-chose, et il n'y a pas de héros, et il n'y a pas de résistance, Et comme toujours avec Kadic, il va s'intéresser à des petits personnages, à un petit antiquaire. Enfin. Donc c'est un roman intéressant parce qu'il est accessible de par le dispositif qu'il propose du chronique historique. Et il est très significatif de Kadic parce que justement, il ne suit pas du tout la dramaturgie que n'importe qui se serait empressé de développer sur ce thème-là.
Voilà. Et on retrouve un thème extrêmement fort à Kadic qui est les réalités parallèles.
Puis le renversement des choses, c'est-à-dire que le roman qui circule sous le manteau est en fait le roman, est en fait la réalité historique que nous vivons, alors que la réalité que vivent les personnages est l'inverse. Donc ça, c'est là, on est en plein de Kadic. Sinon, juste pour terminer vite fait, je pense qu'une très bonne introduction à Kadic, ce sont aussi les nouvelles de Kadic.
Ouais, d'accord. Pierre Jandrovitch, de votre côté, si vous aviez un ouvrage à citer, est-ce que ce serait le même ou est-ce que ce serait
Non, ça c'est un roman qui est hallucinant aussi. Moi, c'est plutôt Blade Runner, donc et plutôt pour le coup le film, parce que c'est comme ça que je l'ai découvert, qui est donc l'histoire d'un réplicant, enfin plutôt d'un chasseur de réplicants en fait, qui dans un futur proche, donc ça se passe en 2019 à l'époque, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Le film a été réalisé par Ridley Scott et l'idée c'est que voilà, on a ce personnage comme ça qui essaie de chasser en fait des réplicants, donc des sortes de clones ou des androïdes qui au bout d'un moment se prennent pour des humains en fait. Et il y a un moment donné dans le film où on se demande, dans le bouquin aussi, où on se demande si ce chasseur n'est pas lui-même un réplicant en fait.
D'accord. Donc là on a aussi le deuxième grand thème kadikien qui est qu'est-ce qu'être un être humain finalement et qu'est-ce qui les différencie des robots, etc. Donc très bonne sélection d'ouvrages, messieurs, puisque ça nous permet d'introduire le thème. Mais pour essayer de saisir un petit peu plus l'œuvre de Philippe K. Dick et de voir à quel point sa contribution a été énorme, le mieux, c'est peut-être de laisser la parole à un fan. Donc c'est exactement ce qu'ont décidé de faire Rémi Reboulet et Marine de Saint-Seine dans leur chronique Le Pas de Côté, que je vous propose d'écouter tout de suite.
Je n'ai jamais vu Star Wars. Attention, je ne dis pas que je n'ai pas vu juste l'épisode 3, qui ne plaît pas aux fans, non. Je n'ai vraiment jamais vu Star Wars, et je m'en fous. Alors K. Dick, je ne savais même pas qui c'était il y a 15 jours. Il me fallait donc trouver un connaisseur, et un de ceux qui pourraient avoir une New Media Credibility. C'était mission impossible. J'aurais pu abandonner, ou lire toute l'œuvre de ce monsieur, bien sûr. Mais j'ai traîné sur le web et trouvé la perle rare. Un réalisateur de docu sur Internet, Adrien Pavillard, qui prépare en ce moment une web-série sur les Makers, qui a fait Poilorama et un film avec des japonaises et des poulpes. Difficile de trouver mieux. Il dit vouer un culte à K. Dick. Alors, interview. Il m'a d'abord expliqué l'univers de K. Dick.
C'est la science-fiction, mais K. Dick, c'est toujours la science-fiction philosophique, parfois même un peu mystique. Et c'est un auteur qui revient un peu toujours sur les mêmes thèmes, et notamment sur le thème de qu'est-ce qu'est la réalité et qu'est-ce qui est la fiction, qu'est-ce qui est vrai, comment on sait qu'on vit dans la réalité, qu'on n'est pas dans le rêve de quelqu'un d'autre.
Difficile par contre de le lui faire résumer en deux mots.
K. Dick, il est génial, souvent assez trippé quand même, et il est barré. Il est extrêmement prolifique aussi, et beaucoup adapté au cinéma.
Les adaptations, ça me paraissait un bon angle, alors il a continué.
J'ai jamais vu une bonne adaptation de l'œuvre de K. Dick. Moi je trouve que en fait, la substance des livres de K. Dick, elle se ressort jamais dans les films. Alors il y a des très bons films, hein. Je pense que Blade Runner, et à la limite, c'est celui qui... Ouais, s'il y en avait un, ce serait Blade Runner.
Mauvaise adaptation, mais bon film. Il s'est expliqué.
Minority Report, c'est un très bon film, mais c'est devenu un film d'action, là où en fait, c'est une réflexion qui est savoir si on punirait pas les gens en fait pour ce qu'ils pensent et pas seulement pour ce qu'ils font. C'est-à-dire que vouloir commettre un crime est déjà un crime. Dans les films, c'est l'action qui fait avancer les choses. Alors que dans ces livres, c'est pas ça, c'est plutôt les questions que se posent les gens, les doutes qu'ils ont tout le temps, c'est ça qui fait avancer, je trouve.
Ensuite, il est parti sur la BD.
Alors, je sais qu'il existe des BD qui sont faites sur la nouvelle sur laquelle est basée Total Recall, Do Androids Dream of Electric Sheep, mais je ne les connais pas. Moi, le seul truc que je connais en BD, c'est une BD, mais qui est plus autobiographique, sur un passage de la vie de K. Dick. Il avait l'impression qu'à un moment, il se souvenait de vies antérieures, et Crumb avait fait une BD sur ça. Alors, elle était plutôt marrante, parce que je trouve que... Et du coup, elle représentait bien ce côté mystique et trippé de K. Dick.
Alors, je lui ai demandé si c'était pas ça la solution, une adaptation qui mêlerait sa vie à son œuvre.
C'est déjà le cas, en fait, dans ses œuvres. Dans plusieurs livres, en fait, il se met en scène. Et moi, je pense qu'en effet, c'est peut-être un très bon moyen de bien présenter l'œuvre de K. Dick, parce que je pense qu'à un moment de sa vie, ça, c'est inséparable, en fait, ce qu'il lit dans ses œuvres et ce qu'il pense réellement dans la vie de tous les jours.
Il paraît qu'Adrien est bavard. Et c'est vrai, je ne l'arrêtais plus.
J'ai découvert qu'il y avait eu des adaptations au théâtre. Il y avait même un opéra, d'ailleurs.
Un opéra. Son univers serait musical.
C'est une super question parce que quand on lit beaucoup de livres de Kadic, on se rend compte que Kadic, il a une culture musicale classique qui est monumentale. Il connaît très très bien et souvent ça joue dans ses œuvres. Souvent, il y a des références à la musique dans ses œuvres, elle est très présente. C'est marrant parce que c'est pas quelque chose qui est par rapport à la musique contemporaine. On pourrait imaginer parce qu'il a un côté un peu psychédélique et puis qu'il écrit dans les années 50, 60. Moment où voilà, il y a quand même un essor de la musique psychédélique. Mais ça, non. Par contre, la musique classique, ouais, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très présent et qui joue dans ses livres.
Bon, j'en avais assez pour ma chronique. Adrien, lui, continuait de parler, mais je ne l'écoutais plus. Je pensais plutôt à conclure avant qu'il ne me lance.
Je pense que j'aurais dû faire le film et on aurait dû m'appeler pour que je le fasse. Pourquoi on ne m'a pas appelé, ça, c'est un mystère.
Je n'avais pas son numéro de téléphone.
Nous venons d'écouter donc le pas de côté de Marine de Saint-Saëns et Rémi Reboulet. Donc on l'a entendu, un auteur de science-fiction qui a des fans extrêmement fervents et qui a donné lieu à beaucoup d'adaptations dans plein de genres différents. Thibaut de Cordet, je vous voyais tiquer pendant la chronique qu'on était en train d'écouter sur le point de vue autour de Blade Runner qui ne semblait pas être le vôtre.
Non, mais Blade Runner est un excellent film, mais je ne trouve pas du tout que ce soit la meilleure adaptation de Kadic, pour la raison que j'ai expliquée sur la dramaturgie chez Kadic. On ne peut pas faire une bonne adaptation de Kadic, puisque par définition, il n'y a pas de dynamique dramaturgique chez Kadic. Non, je trouve que sans être le gardien du temple, je trouve que l'adaptation la plus fidèle à l'esprit de Kadic, c'est le premier Total Recall, celui de Verhoeven, parce qu'il est, très pop, il est plein de couleurs et il est drôle. C'est quand même pas le cas de Blade Runner.
Donc il a été à l'origine de films comme Blade Runner, Total Recall, Minority Report, Planète Hurlante et Scanner Darkly, plus récemment aussi, qui a adapté une de ses nouvelles, je crois.
L'Agence aussi.
Donc une œuvre extrêmement...
Et, pardon, Confession d'un Barjot.
Confession d'un Barjot, d'accord, qui est un film. Donc.
C'est un film, donc.
D'accord. Donc une œuvre extrêmement vaste, je le disais tout à l'heure, donc 45 romans, 121 nouvelles, mais derrière une œuvre aussi spéciale se cache forcément une vie et une personnalité assez particulière, on l'imagine. Alors je ne vais pas vous demander de me faire une synthèse de la vie de Kadic en 2 minutes parce que ce serait horrible, je vais plutôt vous jeter des mots et vous allez essayer de réagir pour voir ce que ça vous évoque dans la vie de Kadic. C'est a priori pas des pièges, donc ne vous inquiétez pas, ça devrait bien se passer. Alors, le premier mot est le mot « sœur ».
Alexandre, ça, c'est très facile. Non, mais il avait une sœur jumelle qui est morte lorsqu'ils avaient tous les 2-3 semaines. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Apparemment, la mère là, s'en est mal occupée. Elle souffrait de malnutrition. Sa sœur s'appelait Jane. Et elle aurait, la mère, fait plus ou moins explicitement supporter à Philippe la responsabilité de la mort de sa sœur, dans le sens où sa mère aurait dit à Philippe il fallait que je nourrisse l'un ou l'autre. Je ne pouvais pas vous nourrir tous les deux, donc j'ai décidé de te nourrir toi. Donc déjà, bonjour le traumatisme. Et le deuxième traumatisme, qui est particulièrement horrible, c'est que lorsqu'il avait, je crois, 4-5 ans, sa mère l'a emmené sur la tombe de sa sœur. Donc il a vu la pierre tombale de sa sœur, et à côté, il y avait sa propre pierre tombale, qui était prête, avec la date de la naissance, donc 1928. Et il ne restait qu'à graver la date de la mort. Donc voilà, ça fait un départ dans la vie qui est assez difficile. Chez quelqu'un qui est un peu, chez quelqu'un qui est un peu borderline, comme le psy Barry Spass le dit dans le documentaire que nous avons produit pour Arte. Voilà, il y a un peu de tout hein, chez Kadic, de la névrose, de la schizophrénie, de la paranoïa, de l'agoraphobie. Être dans une psyché comme ça, un peu borderline, dans les années 60, avec donc la fin du McCarthyisme. Les drogues qui se répandent en Californie, Nixon, le FBI, le Watergate, les Black Panthers, enfin, cette espèce de contexte quand même est assez dur pour quelqu'un qui est déjà un petit peu déséquilibré.
D'accord.
Et donc, juste pour terminer, voilà, donc sa sœur jumelle ayant disparu, c'est devenu une espèce de fantasme tout au long de sa vie.
Voilà.
Qu'il a imaginé Jane comme une adulte aux cheveux noirs, et que ça a été à la fois un personnage récurrent dans la plupart de ses romans, enfin dans nombre de ses romans, et surtout une fixation sentimentale, puisque nombre de ses histoires d'amour ont tourné autour de femmes qui avaient les cheveux noirs.
D'accord. Un deuxième mot dont j'aurais bien aimé que vous me parliez, parce que j'ai lu des choses contradictoires dessus, c'est le mot acide, tout simplement. Parce qu'on peut lire parfois que c'est un auteur extrêmement psyché, qui prenait plein de drogues pour s'évader. Et quand on regarde dans votre documentaire, qui est très très bien fourni et que je recommande vraiment de voir, il y a quelqu'un qui explique qu'en fait, pas du tout, il prenait des amphétamines, mais pas spécialement d'autres types de drogues.
Ouais, en plus, c'est assez marrant, parce que dans le documentaire, c'est lui qui le dit. Il prenait des amphétamines parce que effectivement il fallait qu'il fournisse. Il était très 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 peu payé pour écrire ses romans. Donc il fallait qu'il produise beaucoup. Et comme il explique dans le film, il avait une femme extrêmement dépensière. Et en rigolant, il explique, et ça c'est vrai que c'est, vous avez raison de le mentionner, parce que c'est vraiment une espèce de légende autour de K. Dick, de dire que c'était forcément, il était défoncé du matin au soir, et qu'en plus, ça serait une explication à son imaginaire débordant. Il lui dit dans le documentaire, parce que c'est une interview de 1979, en rigolant, il dit « mais j'osais pas le dire aux gens parce que c'était tellement à la mode de prendre de l'acide, mais j'en ai pris deux fois dans ma vie ».
D'accord.
C'est assez marrant.
Donc il n'avait pas besoin de ça.
Il n'avait pas besoin de ça.
Un autre mot, et ça par contre c'est un mot qui n'a pas été évoqué dans le documentaire en l'occurrence, c'est le mot « communisme ». Puisqu'on lit aussi beaucoup de choses sur la trajectoire politique de K. Dick, qui un peu comme toute sa vie a été assez mouvementée, on va dire. J'ai lu notamment qu'il avait été soi-disant écarté du milieu universitaire à l'époque du maccartisme. Donc est-ce que c'était un auteur qui était à la base un peu engagé, et c'est pour ça qu'il a développé cette vision un peu noire du développement de la société capitaliste, ou c'était juste quelqu'un qui est passé par plein d'idéologies différentes?
Oui, enfin, sa mère était apparemment communiste. Enfin, je ne sais pas si à l'époque elle était encartée, parce qu'aux États-Unis c'était un peu délicat, mais sa mère, je pense, était vraiment assez proche de cette idéologie-là.
Ses compagnes aussi, il a été avec des activistes.
Oui, ouais, bien sûr, des activistes. Après, effectivement, à cette époque, on pouvait être activiste du côté des Black Panthers, contre la guerre du Vietnam, ou les deux. Enfin, c'était, donc il baignait, effectivement, puis Berkeley, 1967, qui est un peu la fixation, la date que nous avons choisie pour le jeu, qui est vraiment une période très charnière. En Californie, c'était vraiment le bain de toutes les révoltes estudiantines, les droits civiques. Enfin, c'était donc lui. C'est pas quelqu'un qu'on imagine tout. C'est pas quelqu'un qui, d'ailleurs, il le dit dans le documentaire. C'est pas quelqu'un qui marche au son du tambour, Philip K. Dick. Donc, on l'imagine assez mal. Une fois, rentrant dans un parti, et deux, suivant une ligne du parti. Ça, c'est quelque chose qui, pour K. Dick, est complètement. Il avait beaucoup trop d'humour et pour se plier à ce genre de choses. Donc c'était un peu par intermittence où il pouvait s'engager pour les Black Panthers, il pouvait s'engager contre les FBI, il a signé un papier, une pétition contre l'utilisation des pour refuser de payer ses impôts qui iraient financer la guerre du Vietnam, par exemple. Donc c'est plus par à coup, comme ça, c'est pas quelqu'un. Il était débordé de travail. Donc,
oui, c'était le résultat de l'époque dans laquelle il vivait.
Oui, c'est ça, et puis d'engagement, effectivement, contre les pouvoirs totalitaires, contre les mensonges d'État et la guerre.
Et alors, le dernier mot de cette petite série, c'est le mot Metz. Metz, la ville de Metz.
Metz.
Non, pas la messe catholique, Metz comme la ville, puisqu'il a déclaré qu'il y avait passé la plus belle semaine de sa vie.
Oui, il a donné une conférence à Metz en 1977, doublée d'une interview qu'il a donnée au CNRS, d'ailleurs qu'on retrouve les deux, qu'on retrouve dans le documentaire. Et à Metz, il a donné une conférence qui a laissé absolument tout le monde sur le cul. Vraiment, c'est vraiment ça, parce qu'il était quand même... 77, c'est après 1974, et 1974, c'était un tournant dans la vie de K. Dick, puisqu'il a eu... Alors c'est vraiment trop long à expliquer ici, mais il a eu une espèce de révélation totale liée à des médicaments que lui aurait donné son dentiste. Il aurait eu cette révélation en 1974 qu'en fait, le monde dans lequel il vivait et dans lequel vivaient ses contemporains était en fait un succès d'année de l'Empire romain. Et
voilà. De la Bible aussi, je crois, non?
Oui, c'est ça, et que donc, il lui faisait partie des premiers, des premiers chrétiens qui luttaient contre les Romains. Et, donc il
est, oui, sa théorie, c'est qu'en fait, la réalité n'est qu'un cycle qui répète des mêmes histoires par couches successives.
Voilà, c'est ça, c'est un palimpseste, en fait, que chaque réalité peut être comme une pelure d'oignon, peut découvrir une successive réalité. Alexandre.
Oui, d'accord, une succession. Bien sûr.
Et à Metz, donc, il est allé en 77, il était dans ce trip-là, et là, il a dit, et c'est ce qu'on trouve maintenant sur Internet absolument partout, c'est devenu une espèce de mythe total, cette interview, enfin, cette déclaration, où il a dit, nous vivons dans un univers synthétisé par ordinateur, et nous ne pouvons nous en rendre compte que quand il y a des bugs dans le système. Voilà. Et donc, quand vous regardez Matrix, des Wachowski.
Exactement.
Ils ont juste pris la déclaration, ils ont dit ça va faire un super film.
Et ils avaient bien vu, ils avaient bien vu venir
c'est
le film.
C'est d'ailleurs un des films non adaptés de Dick qui sont extrêmement proches de Dick.
Alors justement, on était dans les années 70, on va y rester, puisqu'on va tout de suite écouter un titre qui s'appelle White Rabbit de Jefferson Airplane, que vous nous avez demandé justement de programmer. Est-ce que vous voulez nous introduire un peu ce titre?
Alors le titre lui-même est intéressant, et la chanteuse Grace Slick de Jefferson Airplane est intéressante aussi. Donc le titre, c'est White Rabbit, c'est sur ça tourne autour d'Alice au Pays des Merveilles, là, qui suit le lapin blanc. C'est aussi un morceau qui, en fait, est une métaphore sur la drogue, sur l'acide, mmh. et qui a pour particularité d'avoir été le premier morceau sur la drogue diffusé par les radios, parce qu'effectivement les allusions étaient trop
directes.
Justement, n'étaient pas directes.
Ah d'accord. Okay.
C'est pour ça que ça a été diffusé sur.
Ah
les
oui,
radios.
Pardon. Oui, okay.
Et donc ça, c'est intéressant. Le morceau est sorti en 1967 sous le nom de Jefferson Airplane. Avant, c'était un autre groupe, mais donc 67, encore une fois, c'est la date du début du jeu Californium à Berkeley. Ça se passe en 1967.
D'accord.
Donc ça parle de la drogue, ça parle aussi d'Alice au Pays des Merveilles. Et là, à nouveau, on revient sur l'histoire de la réalité et passer de l'autre mm-hmm. côté du miroir. Donc c'est encore Kadic. Et puis Grace Slick, qui est déjà là, donc la chanteuse. Mm-hmm. Déjà, le nom Grace Slick, c'est quand même déjà un nom de protagoniste de roman dickien. Mais une femme aux cheveux bruns,
comme la fameuse sœur.
Voilà, et dont s'est énamouré Philip K. Dick, sans que ça aille beaucoup plus loin, mm-hmm. d'après ce que je sais. Enfin, donc, il a même écrit Blade Runner, enfin, est-ce que les moutons électriques rêvent, est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques. Il a écrit le personnage de Rachel en ayant Grace Slick en tête.
D'accord, voilà. Ok.
Donc, bon. Autour de ce morceau, il y a pas mal de choses qui
donc
nous concernent.
Donc, une musique qui était de circonstance pour cette émission. Donc, on écoute tout de suite White Rabbit de Jefferson Airplane.
Chasing rabbits, and you know you're